France Culture, à voix nue, avec Pierre Michon, par Colette Fellous. Ces entretiens ont eu lieu en juillet 2002, chez Pierre Michon, dans la Creuse, au pays des noms qui circulent dans Vie minuscule, le premier récit de Pierre Michon, publié en 1984. Dehors, donc, Châtelus, Saint-Goussot, Mouriot, L'Écart, et dedans, près de nous, ces livres qui accompagnent l'entretien, Maître et serviteur, La Grande Beune, Rimbaud le Fils, Vie de Joseph Roulin, et les deux derniers, Corps du Roi et Abbé. Premier entretien, la maison des Carres. C'est dans votre maison, dans la Creuse, Pierre Michon, qu'on va peut-être conduire ces entretiens. C'est très surprenant de se retrouver tout à coup dans les noms de lieux de Vie minuscule. Quand on prend la route pour arriver jusqu'à votre maison, on reconnaît les Carres, tous les noms de lieux aussi. Et donc là, dans cet endroit, la fenêtre ouverte sur le paysage presque mental, on pourrait dire, aussi bien que réel de votre livre, de
tout
vos
à fait
livres.
C'est-à-dire que ce lieu pour moi est extrêmement important parce que j'en ai fait un lieu mythologique. Mais pour moi, il est assez difficile de vivre ce lieu. Ça n'est pas tout à fait dans le réel. Je devais le faire, je devais quand même habiter de temps en temps cet endroit. Parce que cet endroit, pour moi, pendant toute mon enfance, a été à la fois ma maison natale et une sorte de tombe. Un temple. Un temple, une tombe, un réservoir de deuil. Et il fallait, pour que je me libère de ce deuil, que tout à coup cette maison soit habitable, viable, qu'on puisse y manger, y enregistrer une émission. Et ça a passé par l'écriture, ça a passé par les Vies minuscules qui ont fait de ce temple, cette prison, dans la mesure où elle a été partagée, cette prison, par des lecteurs, je m'en suis libéré et je peux y revenir en touriste. Voilà.
Oui, vous lui avez redonné vie et sens par la littérature, en fait.
C'est la littérature qui lui a donné sens.
Oui.
Sinon, elle n'a pas de sens. C'est une petite maison comme une autre qui n'a aucun sens, sinon par nos passés. Nos passés donnent du sens à des lieux. Et la littérature redouble ce sens.
Mais c'est dans cette maison que vous êtes né, c'est la maison de vos grands-parents.
C'est la maison de mes grands-parents et je suis né là parce que ma mère, qui était fille unique et qui avait des problèmes matrimoniaux, est venue accoucher chez ses parents. Et je suis né dans cette maison, oui, dans cette maison. C'est Jemsien, c'est la maison natale, quoi. Mais alors c'est moi qui en fais un musée ou c'est quoi? Non, tout ça est bizarre.
On ne sait jamais
on fait tous,
c'est
on fait
l'envers.
Tous, oui, on fait tous un musée de nos...
Et ces vies minuscules donc sont nées de ce paysage, de tous ces hameaux autour, de tous ces personnages qui sont comme des vies de saints.
Oui, oui, c'est né des noms des villages plus que des villages. Parce que la province dont je parle dans les vies minuscules est plus une province mythologique que la Creuse. Bon, il se trouve que c'est la Creuse, mais ça pourrait être aussi bien le Vaucluse ou je sais pas quoi, ou la Normandie, ou n'importe quelle province paysanne arriérée. C'est presque une tautologie, puisque toute province est par nature un peu arriérée par rapport à ses capitales, aurait pu faire l'affaire. C'est une province mythologique. Oui.
Et c'est peut-être aussi ce lieu qui est la source de votre entrée en littérature. On sent qu'en écrivant Vie minuscule, vous vous êtes en même temps forgé une manière d'écrire et aussi une façon de vivre. C'était comme un manifeste presque, ce livre. Peut-être
oui.
Même sans le savoir.
Oui, oui, oui.
Mais
oui.
Il y a une telle énergie, une telle force, une telle étrangeté aussi que...
je devais en finir avec le deuil. Je devais redoubler le deuil pour en finir avec lui. Le plus loin que je me souvienne de ma vie, c'est du deuil de la part de ma mère, de mes grands-parents, du deuil dans tous les sens, du deuil de leur propre vie, du deuil de ce qu'ils auraient pu avoir, du deuil de ce qu'ils avaient eu. Rien en eux n'était à mettre à leur positif, à leur compte. Tout était perdu. Donc il fallait que, non pas que je fasse semblant de ne pas comprendre que tout ça était perdu, que je redouble cette perte dans les vies minuscules et que je m'en affranchisse, dans le même mouvement. J'essayais de les mettre sur une sorte de théâtre sacré. Quand on ne peut pas s'en sortir de sa famille, de ses parents, de ses fatas, de ses destins, il faut en faire du Sophocle. Il faut les mettre sur un théâtre. Et c'est ce que je me suis efforcé de faire avec les vies minuscules. Et là, quelque chose de cathartique au sens le plus simple a joué. C'est-à-dire que leur deuil s'est transformé en beauté, en beau geste, en beau... je ne sais pas. Mais ma mère était toujours vivante. Ma mère est morte seulement il y a un an. Je ne sais pas comment elle a vécu les vies minuscules.
Mais
elle a lu plusieurs fois. Enfin, elle a lu. Elle était institutrice, ma mère. Elle n'était pas tout à fait prolétaire. Intelligente. Et elle. Non pas que les prolétaires ne soient pas. Non, mais je veux dire, elle avait quelques. Un peu d'instruction, enfin. Et quand je l'ai. La dernière fois, quand elle est rentrée à l'hôpital pour ne plus en revenir, il y a un peu moins d'un an maintenant. Elle avait, je suivais en voiture, et elle était sur la civière, et elle tenait les vies minuscules. Ce qui m'a vraiment époustouflé. Là, il y a quelque chose, elle ne parlait pas, elle était très mal, mais elle tenait ce livre.
Comme un livre de prière ?
Comme un livre de prière. Mais comment l'a-t-elle vécu ? Comment l'a-t-elle... C'est un livre très intime. C'est-à-dire que j'ai porté à ma mère un amour absolu. J'ai une fille maintenant qui remplace ça. Enfin, mais pour moi, l'amour est un amour de filiation. Sans doute suis-je oedipien incurablement. Et ce livre a été fait pour elle, en partie pour lever son deuil. Il n'a pas levé son deuil. Il a levé le mien, pas le sien. Ce qu'on fait a toujours des effets secondaires, qui sont les grands effets, mais pas ceux qu'on croyait.
C'est très beau d'ailleurs quand elle apparaît jeune. Elle est toujours dans des robes d'été. Il y a toujours une alternance comme ça entre l'ombre et la lumière, entre le... C'est peut-être ça aussi, l'écart, on peut dire, qui s'écrit C-A-R-D-S ou C-A-R-S, mais c'est aussi L'apostrophe et C-A-R-T. On sent qu'il y a cet écart, peut-être, du livre où vous pouvez à un moment tout dire.
Presque tout, oui. Maintenant, je sais, là, enfin... mon texte sur Hugo, enfin, j'ai peu parlé de ma mère, mais je veux finir sur quelque chose avec ma mère. Quand...
C'est le chat qui entre, qui s'insinue. Pour Hugo, oui, vous vouliez parler du moment où vous étiez près de votre mère, c'est ça ?
Je ne sais pas, je... Oui, j'essaye de... Puisqu'on est dans cette maison, après tout, qui est la maison maternelle. Oui, je voudrais parler de ma mère. Le fait qu'elle n'ait pas été libérée par ce livre, qu'elle n'ait pas... Mais libérée de quoi ? Elle avait... Il est vrai que quand j'ai écrit, quand j'ai publié ce texte, elle n'avait jamais que 60 ans par là. Elle aurait... Un livre est vraisemblablement fait quand il est greffé sur 5 ou 6 générations. Il redouble les comptes de 5 ou 6 générations. C'est ce qui apparaît dans tout, dans les grands textes, dans les textes que j'aime. Ce ne sont pas seulement des histoires ponctuelles, c'est des histoires où tout à coup un destin familial enfoui met un peu la tête hors de la surface du sol. Il faut du temps. Un livre, c'est fait avec des souffrances, pas celui de l'auteur. L'auteur, il s'en tire bien. Mais avec les souffrances accumulées. C'est ce que j'aurais voulu faire. C'est ce que j'ai voulu faire.
Ce que vous avez fait.
C'est ce que j'ai fait. Mais j'ai menti aussi, puisque ma mère n'était pas morte.
Mais elle était à la fois votre mère et votre père, vous dites, hein, et plus tard aussi votre fille.
C'est-à-dire qu'elle n'était ni l'un
aussi.
Ni l'autre. Oui. Puisqu'elle a essayé d'être les deux, elle ne pouvait pas l'être. Elle a été aliénée à moi. Je l'ai empêchée de vivre. On peut dire ça, enfin. Nous sommes beaucoup à dire, j'ai empêché ma mère de vivre. Je l'ai empêchée de vivre. Puisque les choses étaient perdues pour cette lignée, il fallait faire en sorte que, au moins ces sacrifices, ces vies bien sacrifiées, le soient totalement, mais qui est de l'œuvre. Qui est quelque chose qui emporte date, qui emporte écrit. Vanille, tu es un chat désagréable.
Mais c'est traversé de générations, c'est aussi dans d'autres familles. C'est la même chose, ces vies minuscules, vous les avez regardées, magnifiées, avec oui. Une langue surtout étonnante, partout. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a un personnage qui aurait pu ne pas être vu et que vous avez vu. Ou que vous avez inventé.
Enfin, que j'ai inventé en partie.
Que vous avez transformé en écrivant. C'est en écrivant que ça s'est. Trouvé vie, en fait.
Oui. Bon, Vanille. Vanille, ça suffit. L'écriture est une technique de célébration. C'est comme. Le coureur de marathon, qui était peut-être un abo moche comme tout, on le fait en marbre. Il est beau. C'est comme du marbre. Je veux dire, c'est nécessairement, oui. Il faut que les techniques pour célébrer le sacrifice soient belles. Puis sinon, le sacrifice n'a servi à rien. Il n'a servi à rien, de toute façon. Mais enfin, son résultat est beau.
C'est ce souci aussi de la beauté qui vous a conduit. Est-ce que vous vous rendiez compte en écrivant que c'était quelque chose de neuf aussi dans la littérature, dans l'autobiographie, parce que finalement c'est aussi par le portrait de ces vies minuscules que vous avez tracé une espèce d'autobiographie?
Oui. Je ne crois pas que ça soit neuf. Si je lis, enfin, tous les textes que j'aime et que je relis, enfin, depuis l'Antiquité jusqu'à maintenant, sont des textes qui ressemblent aux miens. Il n'y a pas de... Il me semble que l'écrit a tout de suite bien défini sa place et ses armes, ses moyens, et qu'il n'y a de nouveauté que ponctuelle ou pour faire parler les lecteurs, enfin. Non, il n'y a pas de nouveauté, il n'y a pas de... Vous savez, là j'ai relu beaucoup Hugo, enfin, bon, je ne vais pas parler d'Hugo par rapport à moi, parce que c'est pas tout à fait pareil, mais... Hugo a inventé tout aussi, sa bio, il a tout truqué, enfin, il a... Et c'était aussi pour expier des deuils, et pour faire des deuils quelque chose qui est le contraire du deuil, de la joie. Faire de la joie et du deuil. Il faut des sacrifices. C'est comme, vous savez, on dit dans l'Antiquité, enfin la haute Antiquité, à Sumer, même à Rome, je pense, qu'on enfouissait un cadavre dans les fondations d'une maison.
Ah oui.
Enfin, dans, aux origines, enfin. Rien ne se fonde sans sacrifice. Je ne vais pas faire le théoricien et l'idiot, mais pour la littérature, pour les arts, c'est vrai. C'est vrai. S'il n'y a pas de sacrifice, on peut faire ce qu'on veut. On peut écrire ce qu'on veut. Il ne faut pas écrire ce qu'on veut. Il faut écrire en se disant, attention, toutes ces vies bousillées, quand même en ce moment, il faut, non pas du tout que tu rendes compte d'elles, ou il faut que tu sois à leur hauteur. Il faut que tu fasses le phare de Douaumont sur le Suaire. Ou, enfin, vous voyez, c'est pas... Moi, je ne rigole pas avec ça. Même quand je rigole, parce que je rigole en fait tout le temps quand j'écris.
Oui. Mais bien quand vous dites ça, que vous mentez aussi, ou que vous...
Mais comment faire autrement ? Mais qui ne ment pas ? Le type de contrat, le contrat Léris, la règle du jeu, je n'y crois pas. J'aime beaucoup Léris, j'aime beaucoup son livre, mais ce contrat avec la vérité, avec sa vérité, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Dès que le langage s'empare de quoi que ce soit, il, non pas qu'il mente, il tourne autour de la vérité sans cesse, mais dans des directions différentes. Il revient, il s'en va, il est plus proche du vrai, il est plus proche du beau.
Oui, il y a une phrase d'ailleurs dans un de vos livres, vous dites le jour où j'ai compris que le langage mentait, c'était en fait une joie presque, une libération. Ça a été décisif que le langage mentait. C'était pas dit exactement
non,
comme ça.
Non, je savais que le langage mentait.
Oui, mais que c'était en même temps par.
C'est-à-dire que. C'est cette formule d'Aragon, c'est le mentir vrai, quoi. Mmh. C'est juste, c'est juste. On ne peut pas. On ne peut pas dire le vrai sans mentir. D'ailleurs, mentir, est-ce que je mens tant que ça? On ment nécessairement un petit peu, sans arrêt. Sur le choix d'un adjectif, sur n'importe quoi.
Mais ça, c'est là. C'est heureusement.
Non, mais quand c'est autobio.
Ah oui, 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 oui.
La joie, dans ce texte sur Hugo que j'ai fait, c'est un texte autobio, en fait. Bon. J'ai changé hier matin un adjectif. Mais je me dis, ça va passer du mensonge. C'est du mensonge. J'ai changé le mot jovial par le mot magnanime pour être encore plus à mon avantage. Donc, mais comme c'est au deuxième degré, je me fous de ma gueule en même temps. Je me dis, bon, ben, si je me fais passer pour magnanime alors que je me fais casser la gueule, parce que dans ce texte, je me fais casser la gueule, c'est pas si mal. Donc, c'est la liberté. Écrire, c'est la liberté. Comment faire usage de sa liberté sans être à la fois totalement dans le vrai et totalement dans le faux?
C'est peut-être ça la violente liberté, comme
oui.
vous dites.
Oui.
Avec cette part de violence, d'énergie qu'on peut à peine arrêter, enfin, qui emporte la phrase, qui est brutale et douce en même temps, qui traverse le temps, qui...
Oui, oui, la liberté est quelque chose que je vis peu, mais que je vis en écrivant. C'est une angoisse et c'est une joie.
Et quand vous dites, quand vous citez Hugo, donc c'est aussi dans Corps du roi, ce nouveau livre qui vient d'être publié. C'est à la fois Flaubert, mais aussi beaucoup Hugo, c'est vrai. Et il y a aussi votre mère qui apparaît, la mort de votre mère, ouais. Et en même temps la naissance de votre fille avec Hugo entre les deux, avec le poème de Hugo, Beaux ouais, endormis. Ouais.
Hugo est l'homme de la filiation. C'est quelqu'un qui a magnifiquement parlé de la filiation. Qui en a parlé de l'intérieur, pas comme Balzac qui a fait des mises en scène sur cette question, mais Hugo a parlé de sa situation, à lui, ses deuils, en les transposant, en bluffant, mais en les vivant totalement. Il y a une chose que j'aime beaucoup dans Hugo, c'est cette... je ne sais plus qui le rapporte, enfin quelqu'un dans un journal, Il parlait des morts avec des amis. Et il dit le grand secret, c'est que mes morts sont tous là. Ils sont toujours là. Et ça me fait plaisir. C'est-à-dire que même la mort était transformée en positivité.
Mais c'est la création qui fait ça. C'est le... Oui. C'est l'élan de,
à ce point
de
là.
Faire revivre. Oui.
À ce point-là.
Vous avez senti, vous aussi, ça, ce plaisir non, de ce faire...
Jamais. Moi, quand j'ai lu récemment cette page de journal de je ne sais plus qui, où il est question de ça, je me suis dit, quelle force, quand même. Quelle force d'avoir vraiment de la joie. On appelle ces disparus, comme dit Michaud. On appelle ces disparus. Venez, venez. Hugo le faisait vraiment. Il le faisait, il les aimait. Il écrivait avec eux. Et il aimait ses vivants. Hugo n'avait aucune, au contraire, aucun refus des vivants. Il y avait une sorte de mélange de l'humanité qui lui avait été proche. Et il est vrai que c'est sûrement la recette.
Et vous aussi, Pierre Michon, quand on vous lit dans Vie minuscule, par exemple, il y a aussi cette joie de voir vivre ces êtres qui sont au bord d'être cassés ou cassés aussi, comme ça, comme des êtres faibles, mais en même temps magiques, magnifiques, qu'on a envie de connaître, qu'on a envie d'inviter à... dans notre vie, à partager notre vie. Et ça, c'est peut-être la même chose. C'est la joie de les faire, de les créer, de les recréer. Tous ces...
Oui.
Père Foucault,
oui.
Georges Bandy, Jojo, les frères Bacrout.
Oui, sans doute que ce qui m'intéresse, c'est quand même de dégager la joie qui a pu être dans telle ou telle personne. Malgré tout, la joie, la farouche bravoure de la vie, dit Hugo, justement. La farouche bravoure de la vie. Même des types complètement perdus, tout à coup, ils ont des joies. On ne serait pas debout, on ne marcherait pas deux secondes si on n'était pas porté par la joie. Tous ceux qu'on voit, on ne sait pas où elle est leur joie, ils font la gueule. Mais elle est là. Elle est là, c'est sûr, parce que sinon, ils seraient couchés, ils seraient morts. Ils seraient morts. Et c'est ça que j'aime penser en écrivant. Sans écrire aussi, d'ailleurs.
C'est toujours entre ces deux pôles, écrire, ne pas écrire, que vous avez bâti votre œuvre.
Oui.
Ça a été aussi comme
C'est très roué
un
aussi.
Moteur.
Ça. Non, c'est très roué quand même, parce que c'est... C'est pour faire marcher les gens aussi.
Et pour vous faire marcher aussi.
Pour me faire marcher sans doute, mais il est difficile de se placer dans une position littéraire. En ce moment, nous sommes plutôt dans un moment où il faut écrire beaucoup. Moi, je suis trop paresseux, je ne sais pas quoi, mais je n'écris pas beaucoup. Alors, parfois, je me débrouille pour transformer ça en choix. Comme à l'instant, en disant, oui, c'est pas un choix. C'est parce que j'écris pas beaucoup et qu'il faut bien que je dise, si je n'écris pas beaucoup, c'est par liberté absolue. Mais est-ce que j'aimerais écrire plus? Est-ce que j'aimerais avoir écrit plus? J'en suis pas sûr non plus. J'en suis pas sûr. Comme dit Guy Debord, car avant de trouver l'excellent, il faut avoir bu longtemps.
Comment il a dit exactement?
J'écris peu, enfin, j'ai écrit beaucoup, beaucoup moins que la plupart des gens qui écrivent, mais j'ai bu beaucoup plus que la plupart des gens qui boivent. Car avant de trouver l'excellent, il faut avoir bu longtemps.
Et si on s'arrêtait peut-être pour ce premier entretien sur cette phrase, et j'aimerais bien qu'on revienne peut-être sur Hugo et sur votre mère dans un demain.
Demain.
Merci Pierre Michon. Demain donc la suite. Le ciel est un très grand homme. À voix nue, Colette Fellouz, réalisation Bruno Sourcy.